Jean-Pierre Bemba est condamné à 18 ans de prison. C'est le verdict rendu mardi dernier par la Cour pénale internationale de ce pays. Il restera 10 ans en prison, déduction faite de 8 ans déjà passés en détention à la haie. Le ministre de la Santé publique a déclaré lundi dernier l'épidémie des fièvres jaunes dans les provinces de Kinshasa, du Congo central et du Kwango. Tels sont les thèmes de ce soir dans Tribune de la Presse. Autour de cette table, nous avons Jean-Louis Miasokama, il est rédacteur en chef du desk économie à la télévision Antenne A. Bonsoir Jean-Louis Miasokama.
Bonsoir.
Claude Mondicio, journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC en sigle et coordonnateur national des communicologues du troisième millénaire. Bonsoir Claude Mondicio.
Bonsoir Guy Mathé.
Et Georges Kasongo, journaliste indépendant évoluant à Kindu, Maniema. Bonsoir Georges Kasongo.
Bonsoir Guy Mathé.
Bienvenue à tous dans cette émission. Avant d'aborder les débats de ce soir, Kelly Couté revient sur les sujets qui ont défrayé la chronique cette semaine. On l'écoute dans cette revue de presse qu'elle nous propose.
Bonsoir, Jean-Pierre Bemba écope des 18 années de prison, titre l'Observateur. Selon ce journal, les juges ont décidé de fusionner les peines retenues pour chacun des 5 crimes dont Bemba était reconnu coupable. Et le journal de souligner que l'ancien vice-président congolais devient ainsi la personnalité la plus haut placée à être condamnée par la CPI à ce jour. La défense a jusqu'au 19 septembre 2016 pour déposer un mémoire d'appel contre la décision par laquelle le leader du MLC a été déclaré coupable, renseigne la Tempête de tropiques. Forum des As rapporte les propos du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, selon lesquels le gouvernement dit prendre acte de la condamnation du sénateur congolais dans une affaire dans laquelle la RDC n'était pas impliquée. Décision injuste et discriminatoire, titre le potentiel. Pour ce journal, Jean-Pierre Bemba est une victime expiatoire dont se sert la CPI pour se forger une crédibilité au plan international. Son parti, le MLC, ne s'avoue pas vaincu, renseigne le phare. Le président du groupe parlementaire a réconforté les militants du parti en leur annonçant la décision de la défense d'interjeter appel en vue de l'annulation de la peine prononcée contre leur leader, tandis que la députée Eve Bazaïba, secrétaire générale du MLC, a pris à partie la Cour pénale internationale. Pour la députée Kinshasa et pour beaucoup dans cette affaire, question d'éliminer l'adversaire politique le plus redoutable. Pour la référence plus, l'avenir politique de Jean-Pierre Bemba est compromis. Le journal explique que la condamnation de Jean-Pierre Bemba noircit son casier judiciaire. Bemba ne pourra nullement se présenter à une quelconque élection au niveau du pays, relève le quotidien qui se pose la question « Est-ce un procès politique ?» Changeons de chapitre pour parler santé, épidémie de fièvre jaune confirmée en RDC. Le phare y consacre sa manchette et titre « Fièvre jaune, la menace se précise en RD Congo ». Le potentiel relève que de janvier 2016 à ce jour, la RDC a enregistré 1065 cas, dont 75 décédés. L'avenir précise que l'épidémie est concentrée dans deux provinces frontalières à l'Angola, d'où est partie la maladie, à savoir le Congo central et le Kwango, mais aussi dans la ville-province de Kinshasa. Forum des As rapporte que le ministre de la Santé a lancé un appel à l'Organisation mondiale de la Santé et aux autres partenaires pour l'obtention rapide du vaccin. En attendant, le patron de la santé publique appelle la population des provinces concernées à respecter un certain nombre de mesures préventives, notamment l'utilisation de moustiquaires imprimés, écrit ce journal.
Merci Kéline Couté, Jean-Louis Miasokama, rédacteur en chef du desk économie à la télévision Antenne A. L'actualité, c'est ces sanctions financières que les États-Unis viennent d'annoncer contre le chef de la police de Kinshasa pour, je cite, sa responsabilité dans des violences et des disparitions dans la capitale de la RDC. Fin de citation. Votre commentaire.
Bon, c'est vrai que de plus en plus d'autorités congolaises sont dans le collimateur des pays occidentaux, notamment les États-Unis.
Et pourquoi, à votre avis ?
Bon, d'abord parce que c'est suite un peu... On est pratiquement une situation où on a passé des années et que les gens font un peu les bilans de ce qui se passe et par rapport aussi à d'autres étapes, des élections qui doivent venir, si pas cette année ou les années après, etc. Et je pense que le problème, c'est que, un, d'abord, ces pays ont une opinion publique. qui leur interdit quelque part de cautionner des actes qui sont pour eux apparentés des violations des droits de l'homme et tout cela, mais aussi que leur silence passerait auprès des opinions publiques comme un silence coupable. Mais aussi, c'est aussi peut être transmis par cela aussi un message. C'est-à-dire que certainement ils ont eu à dire par voie diplomatique, par voie de communiqué, par voie communiqué officielle qu'ils déploraient telle chose, et maintenant c'est une manière de hausser le ton, pratiquement en prenant des sanctions comme ça.
Claude Molicho, journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise de RTNC en Sible, et coordonnateur national des communicologues du troisième millénaire. Comment vous réagissez, n'est-ce pas, par rapport à ces sanctions financières que les États-Unis viennent d'annoncer contre le général Kanyama?
Guy, d'abord, je dirais que je pense que ce n'est pas l'administration américaine qui a pris toutes ces sanctions contre le général Kanyama. C'est un bureau du Trésor. Bien sûr, c'est un service de l'administration américaine, mais ce n'est pas l'État américain qui s'est adressé à un officier supérieur de la police nationale de la République démocratique du Congo. Et cette question doit être tirée au clair parce que...
Lorsqu'on parle de l'administration américaine, il s'agit, n'est-ce pas, du gouvernement américain?
Tout à fait, mais ici, ce n'est pas le cas. Il s'agit du bureau du Trésor. C'est un service. C'est comme on peut dire aujourd'hui, BESECO ou bien OFIDA, qui prend des dispositions ou qui prennent des dispositions face à un sujet étranger qui amènerait au Congo des marchandises et à l'importation, peut-être ça ne va pas. Donc, ce n'est pas l'administration américaine là. Les États-Unis sont un partenaire du gouvernement congolais et les choses doivent se traiter d'État à État. C'est ça le principe de relations internationales, vous le savez très bien. Et aujourd'hui, il y a un émissaire de la République démocratique du Congo qui est déjà aux États-Unis pour s'enquérir de la situation et essayer un peu déjà de tirer au clair cette affaire. Parce que le gouvernement congolais a déjà réagi pour dire qu'il dénonce, il condamne cette façon de faire les choses parce que le général Kanyama est là, en train de servir le peuple congolais, en train de sécuriser le peuple congolais. Je vais vous donner un exemple, Guy Maté. La dernière marche de l'opposition ici à Kinshasa. La marche est accordée par l'autorité urbaine, l'hôtel de ville de Kinshasa. Et lorsque les marcheurs sont sur la voie publique, ils changent de destination que ça a été convenu de commun accord. Ils vont prendre l'avenue des Tuileries et ils s'engagent sur l'avenue 24. C'est hors de question.
Merci.
Et c'est une façon de provoquer les institutions de la République et ça risque de tourner très mal. Et là, il ne faudrait pas qu'on mette ou bien qu'on piège les institutions, la police nationale.
Merci Claude Molicho. Georges Kasongo, journaliste indépendant évoluant à Kindu Maniema, pour le porte-parole du gouvernement congolais. Cette décision du gouvernement américain est une atteinte directe à la souveraineté de la RDC.
Oui, je soutiens d'abord l'idée du porte-parole du gouvernement qui dit que c'est une atteinte vraiment parce qu'on ne sait pas au motif de quel principe les États-Unis s'arrogent souvent ces droits de sanctionner des citoyens étrangers. Et de plus, moi je considère que cette mesure est inefficace ou bien est très efficace dans la mesure où le général Kanyama, c'est un officier de la police congolaise. Je ne suppose pas qu'il ait des comptes aux États-Unis. Je ne pense pas qu'il y ait un officier qui, d'abord, pour sortir, rentrer au pays, doit beaucoup, beaucoup d'autorisations. Bon, nous pensons que c'est une façon de dire, c'est justement une alerte, mais au finish, sans effet.
Merci Jean-Louis Miyasukama. L'autre actualité, c'est cette journée sans presse décrétée lundi 20 juin dernier en RDC par l'Union nationale de la presse du Congo en vue de protester contre l'augmentation des tarifs Internet.
Oui, je pense que dans l'ensemble, elle a été bien respectée, à part peut-être quelques organes, mais je crois que c'était vraiment une grande réussite. Je pense même que déjà le message avait été capté parce que à la réunion de la Troïka, il y avait le vice-premier ministre Thomas Lwakaké qui était là et le ministre de l'économie qui faisait le compte-rendu a donné un commentaire, bon, jugeant aussi que la grève était, comment dirais-je, soit illégale, soit truc, mais en fait, je ne sais pas, c'est pas l'UNPC ni encore nous, la presse, qui la plupart sont des organes privés pour le cas, parce que c'est tout dans les organes privés que nous allons faire un préavis de grève pour dire qu'il y aura une journée sans presse. Pour les autorités, elles ne pouvaient que constater, comme nous-mêmes, on a dû constater l'augmentation exagérée des prix d'Internet et surtout rappeler la conscience du gouvernement qu'elle a signé les accords sur les objectifs de développement durable, dont un, c'est la connexion sur Internet. Et le rappeler aussi que si elle veut être un pays émergent, un pôle d'émergence, un pôle d'intelligence, cela passe par l'Internet, qui est une autoroute de l'information. Et qui dit information, ce flux d'information, c'est 17 possibilités justement aux gens de se développer, parce que dans pas mal, que ce soit l'économie ou pas mal de domaines, ce sont des flux d'information qui règlent les choses. Et aussi rappeler au gouvernement aussi que la gestion des télécommunications, la fiscalité, parafiscalité et tout ce qui est à les télécommunications est totalement à revoir. Tout
c'est vrai, là les problèmes de fond. La fiscalité.
Oui, la fiscalité. Et le problème aussi, c'est de savoir ce que veut le gouvernement. Vous voulez le développement du pays ou vous voulez plus maximiser des recettes que vous n'allez pas savoir utiliser parce que vous n'êtes pas optimiste.
Claude Moulichaud, pour le président de l'UNPC, c'était une façon, n'est-ce pas, de sensibiliser l'opinion sur ce qui s'apparentait à une répression de la presse congolaise.
Bon, je ne peux pas dire que c'est vraiment une répression de la presse congolaise parce que la connexion à l'Internet concerne tout le monde. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans Internet. C'est toute une vie. C'est comme l'eau à boire. On ne peut pas vivre sans consommer
là,
de l'eau.
Là, il s'agit d'un journaliste qui parle.
Oui, bien sûr. Voilà, j'ai réagi face à cette position de ces journalistes-là. Voilà, la journée sans presse, moi, je pense qu'il ne fallait pas l'organiser parce qu'il ne faut pas prendre des décisions qui ne seront pas exécutées. Vous vous êtes rendu compte que ça n'a pas été respecté. Il y a quelques chaînes de télévision, quelques journaux qui ont essayé un peu d'observer, mais la plupart, soit 70% ou 80%, si je ne les exagère pas, ont fonctionné normalement ces jours-là. Et ici, moi j'estime que l'INPC doit essayer un peu de chercher à recadrer les choses et à penser beaucoup plus sur les conditions de travail des journalistes. C'est ça le travail de l'INPC, parce qu'il y a beaucoup de conflits qui n'ont pas de contrat. Mais revenons sur le fond de la chose. Vous êtes rendu compte aujourd'hui que les prix de la connexion Internet a été revu à la baisse. C'est rentré à l'ordre. Pourquoi? Parce qu'on ne faudrait pas encore piéger les institutions. Parce qu'il y a des opérateurs de téléphonie cellulaire qui œuvrent ici au Congo-Kinshasa, qui cherchent à piéger les institutions de la République.
Georges Kasongo, les compagnies de télécommunications, comme vient de les relever Claude Moulichaud, ont finalement revu à la baisse la tarification Internet. Peut-on dire que l'action initiée par l'UNPC était nécessaire?
Voilà, au moins une première pour la presse qui a compris qu'elle était le quatrième pouvoir, elle a exercé son pouvoir. Chapeau bas à ses confrères qui ont quand même essayé d'observer ces mouvements. Nous disons qu'ils ont rendu des loyaux services à la population parce qu'on ne pouvait pas comprendre que l'Internet, dont nous venons d'acquérir il n'y a pas longtemps la fibre optique, puisse être aussi plus cher de toute l'Afrique centrale. Alors, on ne comprenait plus à quoi cela ressemblait, comme les choses sont revenues. Mais pour nous, les acronètes, donc qui sommes toujours accrochés et honnêtes, cette baisse n'a pas encore été observée. Hein, parce que là, je parle en tant que pratiquant de l'Internet. Vraiment, la consommation, peut-être que ça va aller mollo, mais jusque-là, on n'a pas, et même certains collègues à mes côtés, ont toujours dit que les tarifs n'est pas encore baissé. Mais au moins, nous saluons l'action de la presse. L'action de certaines presses de Kinshasa a été salutaire, tant pour la presse elle-même que pour tous les citoyens. En tout cas, là, nous disons merci beaucoup.
Merci Jean-Louis Miasogoma. Juste un mot par rapport à ces soldats congolais qui venaient d'être tués il y a cela une semaine au Rwanda. Juste un mot.
Oui, pas à son âme pour ce compatriote. Je me compatis aussi avec la peine de nos voyants FRTC qui, par leur vocation, donnent 24 heures sur 24, leur vie pour nous, en espérant aussi qu'il ait des obsèques dignes et qu'on puisse aussi quand même apprendre, c'est-à-dire qu'on puisse diligenter une enquête pour que ces compagnons d'armes de nos FRDC ne soient pas morts pour rien et que je pense que soit le comité de suivi peut vraiment faire quelque chose pour que ça ne se reproduise plus.
Claude Lucieux, un mot par rapport aux soldats FRDC qui viennent d'être tués au Rwanda.
Vraiment, nous regrettons d'abord la façon dont les Rwandais ont décapité ces soldats congolais. C'est vraiment atroce. C'est pas pendant qu'il y a les mécanismes de vérification, pendant qu'il y a un rapprochement aujourd'hui entre le gouvernement rwandais et le gouvernement congolais, pendant que au niveau de la Syrie, on cherche la convivialité, la paix et puis la stabilité de la région. Mais ça, c'est aussi notre provocation. Donc là, on provoque le gouvernement ou les institutions de la République démocratique du Congo. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que nous nous acheminons dans la dynamique de la paix. Il ne faudrait pas encore envenimer la situation. Ça risque de perturber encore la région. Parce qu'aujourd'hui, il a été prouvé que les forces armées de l'Afrique de la Congo sont devenues très fortes sur le plan africain et l'Afrique peut compter aussi sur les soldats congolais.
Merci Georges Kassongo et moi par rapport à ce soldat des FRDC qui a été tué la semaine dernière au Rwanda. Juste un mot.
Oui, paix à son âme, paix à son âme, paix à son âme, paix à son âme.
Merci. Notre premier thème de ce soir, Jean-Pierre Bemba est condamné à 18 ans de prison. C'est le verdict rendu mardi dernier par la Cour pénale internationale. Il restera 10 ans en prison, déduction faite de 8 ans déjà passés en détention à la haie. Il a été condamné pour les crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis par ce soldat entre 2002 et 2003 en Centrafrique. Mais cette décision ne sera définitive qu'à l'issue de l'appel que la défense du président du MLC a interjeté. Les détails avec Jeff Ngoy.
C'est le 21 mars dernier que l'ancien vice-président congolais a été reconnu coupable de meurtre, viol et pillage en tant que chef militaire exerçant une autorité et un contrôle sur les forces qui ont commis ces crimes. Environ 1500 soldats du mouvement de libération du Congo ex-rébellion dirigé alors par Jean-Pierre Bemba se sont rendus en Centrafrique entre 2002 et 2003 pour soutenir le président Ange-Félix Patassé face à une tentative de coup d'état menée par le général François Bozizé. Ces soldats vont par la suite commettre des tueries, pillages et viols. Le procureur de la CPI avait requis 25 ans de prison au minimum, tenant compte de la gravité des crimes. Mais après les délibérés des juges, la sentence prononcée est de 18 ans. La défense du sénateur a désormais 30 jours pour faire appel de ce verdict. Lundi, elle l'a fait savoir à travers un communiqué. Elle accuse la Cour d'avoir échoué à garantir ses droits tout au long du procès.
Merci Jeff Ngoy, Jean-Louis Miesokoma, rédacteur en chef du Desk Économie à la télévision Antenne A. Jean-Pierre Bemba, condamné à 18 ans de prison. Comment vous analysez ces verdicts de la CPI?
Oui, ce dossier est très malheureux, c'est très dur. Ce verdict de la CPI aussi peut accélérer, on le verra dans les mois et années futures, même la sortie du pays dans le traité de Rome, parce qu'on dirait qu'on devient un peu le champ d'expérimentation de la CPI, où ce que pratiquement c'est nous qui sommes les plus nombreux là-bas. Alors c'est à nous de régler notre justice, mais aussi en approfondissant, on se posera toujours la question, surtout la question de la CPI, qu'elle n'a pas fait son travail. Patassé n'a jamais été inquiété, Bozizé non plus, leurs ministres respectifs à la défense non plus, leurs chefs d'état-major non plus. Et que, sachant que ces forces étaient à la disposition de Ange-Félix Patassé et de tout son staff, pendant que les Métel. Ces problèmes, ils l'ont jamais résolu, ils l'ont jamais inquiéter ces gens-là, mais aujourd'hui Patassé est mort, de sa belle mort, et les autres peut-être courent toujours. Donc il y a un véritable problème de crédibilité de la CPI. Et ça, je pense que pour démontrer ce problème de crédibilité, ça prendra peut-être du temps, mais qu'il devra arriver dans les années prochaines à des véritables conséquences par rapport à cela.
Claude Moulichot, journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC en sigle, coordonnateur national des communicologues du troisième millénaire. Les avocats de Jean-Pierre Bemba ont affirmé qu'il y a des paramètres que la Cour pénale internationale n'a pas pris en compte, notamment les circonstances atténuantes. Il cite notamment les faits que Jean-Pierre Bemba n'était pas sur le terrain des opérations. Et c'est pour ça qu'on peut parler du principe de la responsabilité hiérarchique, mais le fait pour quelqu'un qui n'a pas été sur le terrain là où se sont déroulées les opérations, est-ce que cela n'est pas constitué une circonstance atténuante? Surtout qu'on sait que c'est toujours difficile, n'est-ce pas, de contrôler ces troupes à distance.
Tout à fait, Guy Maté. C'est vrai, ils ont raison, les avocats de Jean-Pierre Bemba, parce que ils vont interjeter la
peine. Ils l'ont déjà fait.
Ils l'ont déjà fait, d'ailleurs, c'est leur droit. C'est vrai, parce que aujourd'hui, Bemba devait en principe bénéficier de circonstances atténuantes, parce que, bien sûr, on dit qu'il porte la responsabilité parce qu'il est le chef, il était le chef
hiérarchique,
mais en principe, Bemba n'était pas sous les terrains d'opération. À Bangui, il a envoyé des troupes, c'est une responsabilité bien sûr, mais comme vient de dire mon ami Jean-Louis, il y avait des autorités centrafricaines sur le terrain.
Et il y avait plusieurs armées, hein. Il n'y avait pas que les Français, les Tchadiens,
les Libyens.
Voilà.
Il y avait plusieurs. Mais comment prouver seulement que ce sont les troupes du MRC à l'époque qui ont commis des atrocités, viols, meurtres? C'est la grande question qui se pose.
Est-ce que ces verdicts ne posent pas, comme l'a rêvé Jean-Louis Miasukama, la question de la crédibilité de la CPI?
Oui, c'est toute l'Afrique qui s'est levée pour dire que non à la CPI. Des dossiers qui se trouvent à la CPI aujourd'hui, ce sont les dossiers des Africains. Et c'est comme si la CPI était créée pour traquer les Africains. Et ce n'est pas normal aujourd'hui. Et même au niveau de l'Union africaine, la question a été posée au cours d'un sommet, vous vous souvenez. Est-ce qu'il faudra-t-il que tous les pays africains quittent la CPI et renoncent au statut de Rome? C'est la grande question qui se pose. Et aujourd'hui, heureusement que ce procès est passé à la CPI parce qu'une certaine opinion au niveau national pensait qu'il y avait une main noire du gouvernement congolais qui cherchait à incriminer Bemba parce que c'était un acteur politique. Non, heureusement.
Justement, cela a été dénoncé hier par le MLC.
Oui, bien sûr. Il ne faut pas voir l'ombre du gouvernement partout. D'ailleurs, le gouvernement est très solidaire vis-à-vis de Jean-Pierre Bemba. Il y avait même des résolutions qui ont été prises en concertation en 2013 pour se solidariser à ces Congolais. C'est notre compatriote, nous devons les soutenir en ces temps difficiles. Mais en tout cas, la question de la crédibilité de la CPI se pose.
Merci.
Depuis l'audience de confirmation des charges jusqu'au verdict.
Merci. Georges Kasongo, journaliste indépendant évoluant à Kindu Maniema. Le MLC vient de dénoncer ce qu'il appelle la main noire de Kinshasa dans les processus de condamnation de son leader Jean-Pierre Bemba. Vous avez suivi la réaction de Claude Moluchio qui dit qu'il ne faut pas voir la main du gouvernement partout. Votre réaction?
Voilà. Le MLC, en tant qu'une organisation politique, ne doit que parler comme ça, mais on ne pourrait pas voir l'ombre de Kinshasa partout jusqu'à la CPI. Mais ce qui est vrai, c'est que si vous regardez selon les lunettes que vous avez, vous pouvez voir que soit c'est l'ombre de Kinshasa, soit c'est la justice. Mais à mon niveau, j'essaie de comprendre que la sentence de la CPI, et jusque-là, Bemba continue à jouir de cette présomption d'innocence, parce qu'il n'a pas encore épuisé toutes les voies de recours. Il peut toujours recourir. Mais à mon avis, ce jugement a deux aspects, l'aspect psychologique et judiciaire. En ce qui est de l'aspect judiciaire, je ne vois rien de ce côté-là, parce que les troupes du MLC ont été placées sous le commandement centrafricain. Jean de Mafoute est en liberté, Abdel Miskine, respectivement, si je ne m'abuse pas, ministre de la Défense et chef d'état-major général, ils sont en liberté, et c'est Bemba qui est à la CPI. À ce niveau-là, je ne vois pas beaucoup une histoire juridique ou bien de justice. Mais sur le plan psychologique, je crois que c'est un message clair envers tous les chefs des groupes armés pour leur dire que voilà ce que nous sommes, voilà l'objectif même de la CPI. Donc c'est beaucoup plus psychologique à ceux qui commandent les troupes que voilà, vous pouvez passer par ici. Et je ne suppose pas que Bemba fera encore 10 ans de ce côté-là, parce que de temps à autre, on attend qu'il a un bon comportement dans la prison. Nous supposons que dès qu'il aura effectué la moitié de sa peine, il y aura peut-être rémission des peines. C'est ce que je crois. Mais en bref, c'est dire que le jugement de la CPI, à son sein, il y a beaucoup plus un message psychologique. C'est un message ouvert à tous les chefs de guerre, à tous ceux qui dirigent les troupes.
Merci.
Et sur le plan judiciaire, il fallait d'abord chercher vraiment les responsables de ce moment-là, parce que les troupes et MLC ont été placées sous commandement centrafricain à ce temps-là.
Merci Jean-Louis Miasukama. Les avocats de Jean-Pierre Bemba ont interjeté appel. Au vu des éléments fournis par les avocats de Jean-Pierre Bemba en termes des circonstances atténuantes et ceux fournis par le procureur de la CPI en termes des circonstances aggravantes, est-ce qu'on peut s'attendre à une réduction de la peine de Jean-Pierre Bemba?
Bon, on peut espérer une réduction de la peine, peut-être même qu'il fasse que Jean-Pierre Bemba sorte pratiquement après le verdict en appel. Mais le problème, c'est que je me demande, est-ce que le juge en appel va-t-il désavouer le verdict en première instance? C'est la question que je me pose. Ou ça sera de dire carrément que les juges en première instance avaient pris une mauvaise route, avaient le mauvais coupable, ou
le mauvais témoin,
le mauvais accusé, et tout ça, parce que qu'est, quoi qu'il arrive, le vin intérêt, il faut le boire, même pour la CPI, c'est-à-dire que ce problème de crédibilité, de sérieux, se pose très sérieusement.
Oui, Claude Morisseau, Georges Kassongo lui estime que ces procès ont beaucoup plus un caractère psychologique, dans ce sens que les messages qui viennent passer, c'est à l'endroit de tous les chefs de guerre pour leur dire que l'impunité ne sera plus démise.
Tout à fait, l'impunité ne sera plus tolérée, même au niveau national, parce que notre justice est en train de prendre forme aussi. Et vous vous êtes rendu compte qu'il y a quelques mois, si pas quelques années, il y a des généraux qui ont été condamnés ici, et même les officiers qui se sont mal comportés au niveau national. C'est-à-dire que si nous crédibilisons notre justice, parce que la justice est censée sécuriser tout le monde, c'est vraiment les derniers remparts. Même le chef de l'État lui-même, Joseph Kabila, a présidé les travaux de l'État général de la justice. Il a dit clairement, il tient à ce que cette justice puisse sécuriser tout le monde. Et si nous y parvenons, et je pense que ça ne servirait à rien d'aller à la CPI ou soit au niveau du Sénégal et partout pour les cours internationales. Non, nous pouvons avoir notre justice et les criminels peuvent être poursuivis avec nos cours et tribunaux. C'est bon, au lieu de se livrer à des gens qui ont des implications socio-économiques, politico, à travers le monde, parce que vous savez que l'Occident a sa façon de voir sur l'Afrique, et l'Occident ne laissera jamais le Congo. Le Congo est envié par tout le monde.
Oui, Georges Kassongo, c'est vrai que l'on peut condamner la CPI, mais en fait, c'est les Africains eux-mêmes qui prennent l'initiative de livrer leurs enfants, leurs fils à cette CPI.
Bon, moi je n'attendais pas l'innocentement de la CPI, surtout par l'opinion publique africaine, qui n'a pas d'abord confiance dans sa propre justice. Et la CPI ne doit pas attendre des fleurs de la part des Africains et principalement nous Congolais. Parce que d'abord notre justice, nous la vilipendons chaque jour, mais au moins cette leçon de la CPI, nous osons croire qu'il n'y a pas une justice parfaite. C'est ce que moi je comprends au moins. Mais dire que la CPI est ceci et cela, mais disons que la CPI est là pour réprimer les crimes à caractère international, c'est tout. Et la CPI a sa raison d'être, qu'elle soit là pour l'éternité.
Alors, vous avez évoqué le bon comportement de Jean-Pierre Bemba à la haie. Vous pensez qu'à l'issue de l'appel interjeté par ses avocats, on peut, n'est-ce pas, espérer voir cette peine réduite?
Oui, j'espère toujours, soit parce que lorsque vous suivez, pour ceux qui s'intéressent à la question, vous verrez qu'il a un caractère exemplaire à la haie où il se trouve. Il est toujours là, discipliné pendant toutes les audiences, il fait moins de bruit. Mais nous pensons, dès qu'il interjette l'affaire, si sa peine n'est pas alourdie, elle peut être allégée. Et une fois purgé la moitié de cette peine-là allégée, il pourra bénéficier d'une remise de la peine en question.
Jean-Louis Miasokoma, procès politique comme l'a dénoncé le MLC.
Bon, quand effectivement, il faut comprendre, le MLC, savoir, c'est d'abord leur leader, leur autorité morale, leader naturel. Hein, et comme je l'ai dit, c'est-à-dire que à qui devait-on rendre justice? C'est ça le problème. Devons-nous rendre justice seulement aux victimes des brimades ou viols, exactions des soldats de Bemba en Centrafrique? Ou devrait-on rendre justice à toutes ces populations qui ont suivi des actions de tous les groupes armés et des FACA, des forces centrafricaines de l'époque de Patassé et de tous les milices adjacentes et consorts? Les uns, les autres, on ne mérite pas aussi justice? C'est ça le problème. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils vont dire de la CPI? Qu'est-ce qu'ils vont penser de ça? On va dire comme le général de Gaulle, appeler ça un machin.
Un machin. Merci.
Le général de Gaulle l'appelait l'ONU.
L'ONU, un machin, voilà. Notre deuxième thème de ce soir, le ministre de la Santé publique a déclaré lundi dernier l'épidémie de fièvre jaune dans les provinces de Kinshasa, du Congo central et du Kwango. Félix Kabange Numbi fait état de plus de 65 cas de fièvre jaune confirmés en RDC, dont 7 cas autochtones. Pour faire face à cette situation d'urgence, la RDC sollicite l'appui de l'OMS et de tous les autres partenaires pour l'obtention rapide du vaccin anti-amaril. Félix Kabange Numbi, ministre de la Santé publique, au micro de Michel Kifindangoy.
À ce jour, nous sommes à 67 cas, parmi lesquels 65 cas sont liés à l'épidémie actuelle en Angola et 2 cas qui sont totalement indépendants. Mais sur les 65 cas, 7 cas sont autochtones et 8 cas sont des cas importés. Sur les 65 cas confirmés, nous avons eu 5 décès. Au vu de ce tableau épidémiologique, je déclare ce jour que la République démocratique du Congo est en épidémie de fièvre jaune. C'est ici, pour moi, l'occasion de rappeler encore une fois à nos populations d'observer les mesures suivantes. Couvrir tous les récipients d'eau de façon à ce que les moustiques ne puissent pas s'y reproduire. Utiliser les moustiquaires par les membres de toute la famille pour dormir.
Claude Molichaud, je rappelle que vous êtes journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC en sigle et coordonnateur national des communicologues du troisième millénaire. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris que l'épidémie de la fièvre jaune est déclarée en RDC?
En tout cas, Guy, franchement, j'ai eu peur et j'ai peur même jusqu'à présent. J'ai peur parce que c'est un danger public. Et vous savez qu'on nous a laissé entendre que ces moustiques-là qui provoquent la fièvre jaune piquent à partir de 22h jusqu'aux petites heures du matin. Et donc, si ça vous pique, donc vous développez cette maladie, il n'y a pas de médicament.
À condition que vous ayez un sujet malade à côté de vous.
Et tout à fait. Mais si vous êtes piqué par ce genre de moustiques-là, c'est direct. Hein? C'est ce qu'on nous a dit. Bon, je ne suis pas du domaine médical, mais c'est ce qu'on nous a laissé entendre. Mais j'ai peur aujourd'hui.
Le moustique qui vient piquer un sujet malade, qui vient vous piquer, là, il vous transmet la maladie.
Tout à fait. Mais c'est déjà un danger parce que nous avons déjà 65 cas sur les 67 liés à l'épidémie. Et c'est le ministre qui donne ces chiffres. Et c'est un danger public avec cette façon de vivre des Quinois. Nous sommes dans une situation où les gens sont confinés, les gens sont dans des promiscuités, il y a l'insalubrité. Bon, non, c'est pas. Alors, ça fait peur. Donc, il faut qu'il y ait une urgence. C'est vraiment une urgence. Il faut que le gouvernement prenne les choses au sérieux. Soit on passe la commande des moustiquaires imprégnés d'insecticides pour distribuer gratuitement à tout le monde, c'est pas seulement qui, c'est parce que la fièvre jaune est juste dans le Congo central, Bandundu vers le sud, et c'est déjà un danger public pour les Congolais. Donc, il faut, c'est vrai que le gouvernement prenne des dispositions aujourd'hui, soit qu'on cherche les vaccins, et dans moins d'une semaine, que ces vaccins arrivent, et qu'on, parce qu'on a déjà commencé à vacciner des gens du côté de Njiri ou de la Tiangou, il faudrait que.
Ça s'est épuisé parce que c'était pas pertinent.
Cette opération se poursuit à travers la capitale et pourquoi pas à travers tous les pays. Aujourd'hui, c'est un danger public, Guy Matéry. C'est un danger dans cette capitale.
Merci Jean-Louis Miasukoma, rédacteur en chef du Desk Économie à la télévision Antenne A. On savait déjà que les dangers nous guettaient, dans ce sens que cette épidémie de fièvre jaune sévissait en Angola depuis plusieurs mois. Vous pensez qu'on a pris toutes les mesures pour éviter que cette épidémie ne puisse arriver sur le territoire congolais?
Moi, je pense que l'alerte, j'ai l'impression que l'alerte a été donnée en retard, parce que ceux qui, l'Angola c'est un pays frontalier. L'Angola n'a pas...
Et nous avons les mêmes réalités climatiques.
Mais l'Angola n'a pas le niveau d'alerte médicale, l'infrastructure médicale, l'organisation médicale que nous avons. Que nous avons hérité comme Belges et que nous avons eu le temps aussi d'améliorer, qu'on continue à améliorer. Donc la réaction devait être plus pro-réactive parce que ceux qui étaient partis assister au match des Léopards dans le compte de la troisième journée de la Coupe d'Afrique, quatrième journée, se sont fait vacciner avant d'y aller. Alors le problème c'est que cela devait nous pousser une alerte, c'est-à-dire que on devait déjà prévoir parce que de l'autre côté on sait que cette frontière et les gens sont très actifs, hein, font des va-et-vient et tout, donc je pense qu'il fallait prendre le taureau par les cornes bien plus tôt en ayant déjà une bonne dose de vaccin, en négociant avec l'OMS et peut-être en cassant un peu la tirelire du côté de du trésor public parce que la santé n'a pas de prix. Donc je pense que c'est ça un peu cela, c'est la leçon qu'on devrait avoir, pouvoir faire des simulations, avoir des données au niveau de la DGM, au niveau des, pour connaître le trafic, comment se passent les gens, comment quelles sont les évolutions, quelle est la situation sanitaire aux frontières, pour pouvoir faire des projections ou avoir des niveaux d'alerte efficaces pour vite réagir.
Merci. Georges Kasongo, journaliste indépendant évoluant à Kindu Maniema. L'OMS, dans son dernier communiqué, affirme que deux défis s'imposent à la RDC, à savoir les défis logistiques et les défis du vaccin. Avons-nous les moyens de faire face efficacement à ce genre d'épidémie, Georges Kasongo?
Oui, parce que déjà le budget rectificatif est là. Cela signifie que nous sommes quelque part frappés par la crise financière ou économique mondiale. Et le gouvernement ne saurait pas vraiment réagir promptement à cette situation. Nous devons croire que c'est le rôle que doivent faire les partenaires sanitaires de la RDC, notamment l'OMS en question, de disponibiliser les vaccins à temps opportun. Et puis, depuis logistique, une organisation mondiale, on dit toujours au gros mot des gros remèdes, l'OMS devrait tout de même faire tout ce qui est à son pouvoir, mobiliser les bailleurs de fonds, enfin d'éradiquer, ou bien si pas éradiquer, mais enfin de disponibiliser les vaccins pour cette situation, cette maladie de fièvre jaune, connue ici chez nous au Kivu comme Mangano en Swahili, et ça la fièvre jaune.
Oui, Claude Molichot, tout le monde, n'est-ce pas, relève la nécessité d'avoir, de disponibiliser rapidement les vaccins, mais les experts affirment que ces vaccins anti-amarile, c'est un vaccin qui est très sollicité, mais qui n'est pas fabriqué en grande quantité. Et déjà, il a été dit que l'Angola, qui continue à connaître ce problème d'épidémie de fièvre jaune, qui avait besoin de 7 millions, n'a reçu que 2 millions de doses. Alors face à cette triste réalité, que pourrait faire le gouvernement congolais?
En tout cas, il doit mobiliser les partenaires, hein, parce qu'on a vu dans certaines situations ici, le gouvernement, surtout les fronts pour mobiliser les partenaires, parce que nous travaillons avec les partenaires du secteur comme l'OMS. En tout cas, si l'OMS au niveau de Genève s'est mobilisé, je pense qu'on peut trouver... parce qu'il ne faudrait pas attendre les derniers jours ou les pires, parce que on a vu la situation d'Ebola, soit au Libéria et même chez nous ici à l'Équateur, et en tout cas on s'est mobilisé pour essayer un peu d'arriver à maîtriser la situation. Donc le gouvernement a la responsabilité de se mobiliser pour chercher les partenaires, chercher les moyens pour essayer un peu d'épargner les Congolais à ces dangers-là, parce que c'est vraiment un danger. Il faudrait voir seulement les conditions dans lesquelles les Congolais ou les Kinois vivent, vraiment ça risque de se... s'aggraver si on ne prend garde.
Jean-Louis Miasokwama, il faut nécessairement mobiliser les partenaires, mais il est dit que pour le moment, la firme qui fabrique ces vaccins ne détient que 3 millions de doses. Et que faut-il faire face à cette réalité? Oui, mais... les partenaires peuvent être disposés, n'est-ce pas, à nous aider, mais face à cette contrainte, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils ne faudraient pas, à notre niveau, au niveau national, et développer certaines attitudes, n'est-ce pas, notamment assainir nos milieux, assainir notre environnement, en attendant que ces vaccins ne soient disponibilisés?
Bon, il est vrai que la lutte dans ce domaine, elle a plusieurs formes. Il faut avoir les vaccins, il faut assainir le milieu, et ça c'est un vrai problème. Mon confrère le dit, c'est Kinshasa toujours qu'on veut la belle, mais qui est restée la poubelle, parce que, je suis désolé, mais le gouvernorat de la ville ne fait absolument rien. Je suis toujours scandalisé quand je vais par exemple au Grand Marché, l'avenue Bokassa, ce qui est devenu. Mais soit, il y a la sensibilisation par des gestes bien clairs, je crois, l'usage de la toile de moustiquaire, éviter tout foyer, comme a dit le ministre de la Santé, taux non couverte ou stagnante pour des œufs de moustiques ne puissent se développer. Mais la dernière mesure reste en fait le vaccin. Donc, même s'il y a un peu de dos, je pense que cela devient intéressant maintenant de tenir compte, parce que tel qu'on a eu cette fièvre jaune qui a commencé en Angola, elle va finir certainement, mais c'est un épisode. Dans quelques mois, dans quelques années, ça reviendra. Donc, il faut préparer
et déjà donc, des mesures pour prévenir ces genres d'épidémies.
Déjà pour contrer maintenant et pour prévenir.
Alors, il y a le docteur Kebela, docteur chargé de la maladie au ministère de la Santé, qui dit que la première mesure pour éviter cette épidémie, c'est d'avoir un bon système de surveillance pouvant permettre de détecter de façon précoce les premiers cas pour une intervention rapide afin d'éviter une grande flambée d'épidémie, comme c'est le cas en Angola.
Oui, c'est normal, parce que le problème maintenant, il faut circonscrire la maladie, il faut circonscrire l'épidémie, il faut trouver où elle évolue et pour la contenir. Hein, mais c'est pas facile parce que c'est des moustiques. Ebola, c'est des personnes, ça va de personne en personne. Mais là, par exemple, c'est des moustiques. Et quand on est à certains endroits, on n'a pas bien coupé les herbes, on n'a pas, il y a des foyers de là où les moustiques peuvent développer ses œufs et puis aller de, comme la mouche de coq, de lieu en lieu et se déplacer, c'est sûr que ça ne va pas aider. Il faut, et c'est pour ça qu'il faut un véritable plan d'assainissement aussi bien des villes et même des provinces.
Merci. Geoffrey Kasongo, vous êtes à Kindu. Quelles sont les mesures qui sont déjà prises là dans la ville où vous trouvez actuellement pour que cette maladie ne puisse pas arriver là-bas à Kindu, Maniema?
Oui, jusque-là, les Maniema se sont un peu épargnés de cette épidémie, mais comme si c'est une maladie, il y a des réservoirs ici chez nous, au Congo, parce que c'est là où on trouve les réservoirs. Je pense que le ministère de la Santé, ou bien la Direction provinciale de la Santé, devrait quelque part s'effectuer avec à la campagne de sensibilisation, notamment à l'utilisation des moustiquaires imprégnés, et qui sont là beaucoup, beaucoup disponibilisés ici par les partenaires de la santé. C'est ce qui devrait être fait vraiment. Et c'est ce qu'on est en train de faire ici à Kindu, la campagne de sensibilisation. Et aussi, on est en train de recommander, dès qu'il y a un cas de maladie, de fièvre, dès qu'il y a une sorte de jaunisse comme ça, immédiatement référer l'enfant au centre de santé le plus proche, là où il y a des personnes qualifiées. Donc, il y a déjà une cellule de crise qui est en voie d'être montée pour faire face à cela dans les tout prochaines heures.
Oui, en conclusion, Claude Molucho, les experts disent que cette maladie a les symptômes similaires à d'autres maladies comme la malaria. Et vous ne pensez pas qu'il faut insister, mettre un accent sur cette campagne de sensibilisation, comme cela est déjà fait, a déjà commencé à être fait à Kindu, comme vient de nous le dire Georges Kasongo.
Oui, parce que quand on est atteint de cette fièvre jaune guimatée, on ne va pas survivre, donc on va décéder.
C'est-à-dire pas nécessairement. Les médecins disent qu'on ne meurt pas nécessairement. C'est curable, on peut guérir, on peut remédier à ça.
Ah, peut-être que j'ai...
On peut remédier à ça.
Peut-être que je n'étais pas informé dans ce sens-là, parce qu'on nous a dit que si vous êtes atteint de cette fièvre jaune, vous êtes candidat à la mort. Mais la sensibilisation est très très importante. Il faudrait que ça se passe d'abord avec beaucoup de technicité. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un vaste territoire. Bon, c'est peut-être Kinshasa qui est touché aujourd'hui avec 65 cas, mais ça risque de...
Les Congo central,
mais il y a des mouvements de population. Les gens peuvent voyager vers les Kasai, Chikapa, Mbujimayi, jusqu'à...
Donc les mesures doivent être prises partout.
Partout, vraiment, parce que... Et mobiliser sur tous les moyens. Sur tous les moyens,
merci.
Et sur tous les canaux possibles de sensibilisation, et se faire appel aux techniciens, parce qu'il ne faudrait pas associer n'importe qui dans la sensibilisation, pour que les résultats soient escomptés.
Merci Jean-Louis Miasakwama. En conclusion,
je pense qu'il ne faut pas céder à la peur, et ça c'est important, parce que c'est ça le plus grand, c'est la panique, mais essayer. Je crois que là déjà c'est une maladie comparable, on l'a dit, à la malaria, au paludisme, donc déjà tous les réflexes nécessaires de lutte contre le paludisme peuvent être adoptés. Éviter les eaux stagnantes et l'assainissement, toile de moustiquaire, et puis essayer d'avoir le vaccin.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Mimi Kindu qui est à la technique et Kelim Kouté qui a réalisé cette émission sous la supervision des Pélé qui fait la Mondo. À la présentation, Guy Maté. Merci, à la semaine prochaine pour un autre débat. Bon week-end sur Radio Capitole.